Bienvenue dans La Meute, le podcast des parents qui partagent les joies et les galères de la parentalité. Je m'appelle Rémi, avec ma femme Julie, nous te partageons nos aventures et nos réflexions, tout en donnant la parole à d'autres parents pour rassembler autant de témoignages que possible, pour nous ouvrir au nouveau paradigme de la parentalité. Si toi aussi tu veux rejoindre La Meute, retrouve un nouvel épisode sur ton appli de podcast préféré, un mercredi sur deux. N'oublie pas de t'abonner, donner 5 étoiles et un commentaire pour nous transmettre tes bonnes ondes et soutenir le podcast. Et si tu aimes vraiment La Meute, retrouve le lien pour t'inscrire à la newsletter dans les notes de cet épisode. Comme ça, tu ne rateras aucune des actus concernant La Meute. J'espère que ce nouvel épisode te plaira. Je te souhaite une bonne écoute. On se retrouve pour un format d'épisode que je n'ai pas encore fait, donc une nouveauté ici dans La Meute. C'est un format qui me plaisait vraiment de faire et je suis assez content de le faire aujourd'hui du coup. J'ai proposé sur Instagram de vous faire intervenir dans le podcast. Vous pouviez me poser les questions que vous aviez envie en vocal. J'ai bien précisé en vocal parce que sinon, s'il n'y a pas de son, c'est compliqué de faire intervenir les gens sur un podcast, et donc vous êtes venu me poser vos questions en vocal sur Instagram. Vous avez été 3 à intervenir. Attendez, 3 et demi, vous comprendrez pourquoi, mais vous avez été quand même 3 à me donner des questions, et ça va être vraiment tout le contenu de cet épisode. Je vais répondre à ces questions-là, donc merci à ces 3 personnes qui ont participé, et du coup je pense que en fonction de vos retours, si jamais ça vous plaît ce format-là, eh bien on réitérera l'expérience et je relancerai l'invitation. Et si vous avez envie de poser vos questions cette fois-ci, eh bien vous pourrez le faire. La première participation avec une question très très importante.
Bonjour, du coup j'ai une question, comment tu vas?
Et merci petite joke pour cette question. Coucou à toi, et oui, ça va bien, un peu fatigué parce que je me suis levé un peu plus tôt que d'habitude, mais sinon tout va bien, en tout cas je vais bien, merci de m'avoir posé la question. Ça commence, ça fait une bonne introduction à l'épisode, dirons-nous. Ensuite j'ai eu une question, deux questions même je crois, de Mélodie. Merci Mélodie pour tes questions.
Coucou Rémi, eh ben écoute, j'avais mis oui à ton sondage, j'ai mis un petit peu de temps à venir poser mes questions, et en fait à chaque fois que j'avais des questions qui me venaient en tête, j'étais un peu en mode c'est un peu une question bête, mais bon, on va se dire qu'il n'y a pas de question bête. Et du coup ma question c'est comment vous faites quand y a une nouvelle situation, et on sait que tout est nouveau avec un bébé et que voilà, tous les jours il y a des nouveautés, quand il y a une nouvelle situation et que sur le vif vous êtes là tous les deux avec Julie et que vous réagissez et que vous êtes pas forcément d'accord, ou est-ce que vous essayez d'anticiper ce genre de moment et vous en parlez avant, ou est-ce que, enfin, comment vous gérez ce genre de situation où il y a un peu à se mettre d'accord dans le couple pour comment réagir avec son enfant. Voilà ma question.
Merci beaucoup Mélodie pour ta question. Et effectivement non, il n'y a pas de questions bêtes, comme je te l'ai dit en message privé. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a jamais de questions bêtes. On n'a pas tous, entre guillemets, le même niveau de connaissance sur tous les sujets. Et c'est pas un souci de ne pas savoir certaines choses. Et c'est pas grave de le demander. Au contraire, justement, c'est en posant les questions que l'on est moins bête. Je pense justement qu'on est bête à ne pas poser les questions, tu vois. C'est la nuance que je donnerais. Donc non, clairement, même sur les questions les plus évidentes, entre guillemets, qui pourraient nous traverser l'esprit, on n'est pas bête à les poser. Et du coup, ta question, en l'occurrence, c'est une question intéressante, si je prends un peu de recul, à vrai dire, je pense pas qu'on ait beaucoup anticipé ce genre de truc-là, tu vois, à se dire... Tiens, si tel événement se produit, tout ça, comment on devrait réagir? Comment est-ce que tu penses que tu réagirais? Est-ce que du coup ta façon de réagir serait alignée avec la mienne, tu vois? On n'a pas ce genre de discussion là avec Julie. Je pense que les seuls moments où ça a pu arriver, c'est quand on va à l'extérieur et que l'on sait qu'on va rencontrer des proches ou des amis ou quoi. Là, on a plus tendance à anticiper plus ou moins négativement d'ailleurs, et du coup on peut se faire des petits scripts, enfin pas pour vendre des scripts, mais comment dire, on s'imagine comment la situation va être amenée. Et en fonction donc de comment on imagine cette situation, on réfléchit à comment on réagirait, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a notamment des proches, on sait très bien de leur réaction. On a déjà éprouvé le test. Et donc, quand on est amené à les revoir, par exemple pendant le trajet en voiture, tu vois, on va se dire bon, alors, si un tel dit à Charlie, mais non, il faut pas pleurer, arrête de pleurer, faut pas pleurer, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Et donc là, c'est vrai qu'on va réfléchir un peu ensemble et on va dire, ben, on va pas forcément reprendre la personne et lui dire, mais non, faut pas dire ça, nanana. Quoique parfois, quand on n'est pas fatigué, quand on est plein d'énergie, ça nous arrive de reprendre les gens. Mais on va surtout parler à Charlie et lui dire que si, bien sûr, qu'elle a le droit de pleurer, qu'il n'y a aucun problème à ça, et que si elle ressent le besoin de pleurer, elle a tout à fait le droit, et je dirais presque même le devoir, de pleurer. Et c'est... Elle n'a pas à se retenir pour le plaisir des uns et des autres, quoi. Donc, c'est juste dans ces aspects-là, tu vois, que j'arrive à revoir que, ouais, ça peut nous arriver à anticiper un peu, et on en discute ensemble de comment on peut réagir. Mais la vérité, c'est qu'on peut pas tout anticiper. Je veux dire, dans la vie, en règle générale, on peut rien anticiper du tout. Il y a rien qui est prédictible plutôt. Il y a rien qui est réellement prédictible. Donc, il y a énormément d'imprévus. Et je pense qu'au niveau de la parentalité et de vivre avec un enfant, niveau imprévu, on est bien, quoi. On est au niveau plus. Donc je pense que c'est entre guillemets une perte de temps que de chercher à anticiper tout ce qui pourrait arriver et d'y réfléchir en amont. Et au-delà d'une perte de temps, une grosse perte d'énergie, quoi. Et en fait, si on veut vraiment le faire, il faudrait passer notre vie, à réfléchir à tout ce qui pourrait arriver et quelle serait la meilleure façon de réagir. Donc non, on ne le fait pas. Et je comprends ta question dans le sens où c'est, comme je te le dis, c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on est pris au dépourvu, quand l'imprévu arrive et qu'on ne s'est pas aligné avec l'autre parent ou avec les proches, on peut avoir des réactions qui ne sont pas alignées. On peut même avoir des réactions qui sont totalement opposées et donc on part dans un truc totalement contre-productif, quoi. Et ça, je le vois de temps en temps et c'est vrai que c'est chiant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est chiant. Et c'est là où on se dit, tiens, ça aurait été bien qu'on en discute pour s'aligner avant que ça n'arrive. Mais le problème, c'est que t'as pas idée de ce genre de situation avant de le vivre, tu vois. Donc tu peux pas. C'est beau de se dire, ouais, ça aurait été bien qu'on en discute avant, tu vois. Mais je pense que c'est se prendre la tête pour rien. Après, évidemment, dans les grands trucs, dans les grands aspects de la vie, de l'éducation, de vivre avec un enfant, etc. C'est intéressant de se poser la question à un moment donné. Bien sûr que lorsqu'il est question de la nourriture, allaitement, biberon, c'est bien de se poser la question avant de se retrouver sur le fait accompli pour être aligné avec la famille ou en tout cas les parents, les deux parents, que les deux parents soient alignés ensemble. Tu vois, c'est pareil, la DME, etc. Savoir si on a envie qu'ils aillent à l'école ou pas. Enfin, tous ces grands détails d'éducation, oui, c'est évidemment important d'en discuter, mais en même temps, ce sont des choix qui sont réfléchis en amont et c'est rarement des situations qui apparaissent comme ça. Donc, je pense que là, c'est vachement plus adapté à la discussion. Par contre, il y a des trucs, effectivement, où c'est plus compliqué. Et tu vois, on a beau être d'accord sur, par exemple, oui, l'éducation non violente, on est totalement alignés, Julie et moi, mais en même temps, on se rend compte dans la pratique, dans le concret, que Julie et moi, on n'a pas forcément la même perception de la violence. Je pense que ça pourrait être intéressant d'en faire un épisode de podcast autour des violences éducatives ordinaires ou de la perception de la violence de chacun, parce que c'est là où tu te rends compte que quand même, la notion de violence est hyper subjective et ce qui est violent pour quelqu'un ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a des seuils. Moi, je vais trouver certaines choses très violentes, tandis que d'autres vont trouver que non, c'est pas si violent que ça, et inversement. Et donc, c'est compliqué. Et je pense, je vais pas forcément m'étaler sur des anecdotes autour de cette question de la violence. Je vais réserver ça pour un épisode de podcast avec Julie. Je pense que ce sera intéressant de vraiment creuser sur cet aspect-là, mais effectivement, là, tu vois, j'ai des souvenirs de réactions où on n'était pas forcément alignés tous les deux, et donc, ben, on en a discuté. On en a discuté parfois en haussant le ton, tu vois, enfin, pas forcément très calmement, et c'est ce que tu veux éviter, quoi, forcément, quand t'as des souvenirs d'engueulades de parents qui, enfin, de parents qui s'engueulent devant leurs enfants et tout ça. Bien sûr que c'est ce que tu veux éviter, mais il y a des moments, en fait, tu peux pas parce qu'on est humain et que les émotions, elles sont là et qu'il y a des moments, tu peux pas juste H24 réfréner tes émotions. Donc ta question, elle est intéressante et je la comprends pertinemment parce qu'on veut éviter tous ces couacs-là qui peuvent arriver. Mais est-ce que c'est possible, tu vois, au-delà de se poser comment, au-delà de se poser la question comment faire, est-ce que c'est véritablement possible de tout anticiper à l'avance? Je suis pas sûr. Donc dans l'idéal, en fait, je pense qu'il faut trouver une stratégie pour que lorsque le moment arrive où tu te rends compte que bah, t'es pas forcément, les deux parents ne sont pas forcément alignés sur la situation là, bah, il faut trouver une stratégie pour ne pas tomber justement dans l'engueulade, tu vois, dans les reproches ou je ne sais pas quoi, ou alors dans une discussion qui monte dans les tours et ça, c'est ce qu'on veut éviter. Donc il faut trouver une stratégie, peut-être ça, ça serait intéressant, tu vois, de réfléchir. Je pense que, tu vois, anticiper juste ce truc-là de façon globale. Bon, alors, quand on n'est pas aligné sur un truc et que ça arrive, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réagir, entre guillemets, convenablement? Et du coup, cette stratégie, tu peux l'appliquer après à toutes les situations imprévues qui arrivent ou arrive ce fameux moment où on n'est pas aligné. Dans l'idéal, je pense que ce serait bien de freiner le truc et de se dire, bon, ben, on va attendre d'être à tête reposée pour vraiment discuter de ce qui s'est passé et pourquoi moi je pense ça et toi tu penses ça, etc. Et puis après, prendre une décision. Mais ça, encore une fois, c'est dans un monde idéal et on n'est pas tout le temps des versions idéales de nous-mêmes, tu vois. Donc il faut faire avec notre humanité. C'est si beau. Tu m'avais laissé une deuxième question aussi, donc je vais écouter ça tout de suite.
Et j'aurais une deuxième question, je suis très inspirée cet après-midi, décidément. C'est comment vous faites, parce que vu que vous travaillez tous les deux à la maison et que bah, vous êtes H24 tous les trois, comment vous faites pour vous octroyer des moments ensemble et des moments seuls? Ça pourra aussi peut-être aider les gens qui sont en confinement avec leurs conjoints et leurs enfants. Mais voilà, c'est vrai que nous, dans notre cas personnel, on n'a pas vraiment de famille proche, enfin, notre famille la plus proche est à 600 km. Donc du coup, on a vraiment tout le temps notre fille, on l'a jamais fait garder, etc. Et du coup, bah, quand elle se couche pas forcément très tôt ou quoi, on a du mal à lutter contre la fatigue et garder notre moment tous les deux. Enfin, est-ce que vous avez des astuces, petites recettes miracles? Voilà.
Cet épisode, elle va être un peu, ça va être un peu l'épisode de la déception. Je sais pas, je me souviens pas de toutes les questions qui ont été posées, mais je pense que dans beaucoup de questions, je vais dire que non, il n'y a pas de solution miracle. Et loin de moi de vous dire que oui, j'ai la recette miracle et je vais vous la donner aujourd'hui. Alors, je pense que c'est un challenge de tous les couples, notamment qui font le choix de rester tout le temps avec leurs enfants, ou en tout cas qui font le choix de pas trop de pas faire appel aux crèches ou quoi, tu vois. Et effectivement, je veux dire, même d'ailleurs, même pour les parents qui font appel aux crèches, ben quand tu récupères tes enfants le soir, ça peut être compliqué quand même de trouver du moment, des moments à deux ou tout seul, comme tu le disais. Par rapport à tout seul, ça me paraît. En tout cas, nous, c'est simple, entre guillemets, dans le sens où on est à notre compte. Donc, on a l'avantage de pouvoir gérer notre emploi du temps vraiment comme on le souhaite. Et quand on veut du temps seul, eh bien, je m'en vais. Je m'en vais avec Charlie. Ou alors, c'est Julie qui s'en va. Tu vois, avant le confinement, ben, il y avait notamment certains créneaux de travail. Julie, elle aimait bien les faire seule. Et donc, elle partait en coworking dans une salle où elle saurait qu'elle ne serait pas avec nous. Et ça lui laissait du temps pour elle. Il y a des moments aussi, elle partait simplement, soit pour aller voir une amie ou faire des emplettes ou n'importe quoi. Enfin, peu importe la raison, tu vois. Mais Mais moi, c'est pareil, j'aime bien sortir juste marcher. Ben, je prends du temps et l'autre prend le relais, tu vois, pendant que l'autre a pris son temps pour lui. Donc ça, c'est une facilité qu'on a. Je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens de pouvoir gérer son emploi du temps comme il le souhaite. Là, pour le coup, j'avoue que je n'ai pas forcément la solution, mais j'imagine que même s'il y a d'autres contraintes, on peut quand même s'arranger parmi le temps libre à notre disposition de se dire, ben là, j'ai besoin d'une heure seule, donc je te laisse l'enfant, moi je vais aller marcher, ou alors le contraire, toi tu vas te balader avec l'enfant et moi je reste seul à la maison pour prendre un bain, pour me détendre, peu importe. Après, du temps à deux, c'est effectivement plus compliqué. Avant le confinement, c'est arrivé qu'on la fasse garder, mais ça, c'est quand même relativement rare. Je ne saurais même pas dire combien, mais c'est pas arrivé très souvent. Effectivement, notre famille n'est pas très loin, donc c'est arrivé que ma mère ou la mère de Julie viennent s'occuper de Charlie. C'est arrivé une fois que je laisse Charlie à ma mère et mon père, qui l'ont gardé le temps qu'on fasse notre petit repas d'anniversaire de mariage. Mais voilà, c'est quelques détails comme ça un peu exceptionnels entre guillemets. Mais sinon, c'est vrai que notamment moi, et ça sera aussi peut-être l'occasion de faire un épisode de podcast. Je suis pas enchanté à l'idée de la faire garder, en tout cas sans que ce soit une volonté de la part de Charlie, sans qu'elle puisse nous dire. Oui, je veux bien passer du temps avec un tel ou un tel, tu vois. J'aimerais vraiment, dans l'idéal, encore une fois, dans le monde idéal qui n'existe pas, j'aimerais vraiment lui laisser le temps qu'elle puisse exprimer son envie de passer du temps en dehors de nous. Il y a des moments, tu vois très bien qu'elle l'accepte plus que d'autres, tu vois, et ça m'embête de lui imposer quand elle ne l'accepte pas. Je veux pas partir dans un débat de si c'est bien pour elle ou pas bien, tu vois, à la limite, ça, je m'en fiche, c'est juste par rapport à mes valeurs de devoir lui imposer des trucs qui sont pas de l'ordre de sa sécurité. Évidemment, quand il est question de sa sécurité, je lui impose, même si elle n'en a pas envie, mais lorsqu'il est juste question de confort, entre guillemets, j'aime pas lui imposer des choses. Donc, la laisser à des amis ou à des proches, c'est arrivé assez rarement, mais c'est arrivé. Donc là, c'est effectivement des moments où on a réussi à être tous les deux. Et sinon, effectivement, bah, c'est quand elle dort, c'est tout. Il n'y a pas 10 000 solutions. Tu vois, tu voulais peut-être une recette miracle, mais effectivement, j'en ai pas. Donc, c'est quand elle dort. Et en plus, bon, Charlie n'est pas une grande dormeuse, donc elle fait presque aucune sieste la journée. Et après, par contre, quand elle dort relativement bien. Il y a quelques réveils, tu vois, mais elle dort quand même la nuit. Donc, ça nous laisse du temps. Et là, de plus en plus, c'est vrai qu'on essaie de passer du temps juste tous les deux quand elle dort. Tu vois, il y a des moments, c'est vrai que. En fait, ça dépend aussi. Comme tu le disais, tu vois, tu disais, il y a des moments où on est tellement fatigué qu'on ne fait pas. Et c'est vrai qu'il y a eu des périodes où Julie était tellement fatiguée qu'elle restait dans le lit avec Charlie, et voilà. Et ça se comprend totalement. En plus, bon, elle a traversé une opération du dos, etc., donc ça n'arrange rien. Mais là, je pense qu'elle a un regain d'énergie, donc elle peut se permettre parfois de veiller un peu plus tard et de pas s'endormir tout de suite avec Charlie. Peut-être qu'elle en a pas forcément envie à ce moment-là non plus, tu vois. Et donc là, c'est des moments qu'on passe tous les deux. Et c'est très bien, je pense que c'est très bien comme ça. Et je pense qu'on pourrait tenir un rythme comme ça, effectivement. D'autant plus si Charlie parvenait à acquérir à un moment donné le sommeil. Mais bien sûr que ça arrivera. Je ne sais pas quand, mais évidemment qu'elle finira par acquérir le sommeil. Et donc qu'elle s'endort un peu, enfin au-delà de, tu vois, j'allais dire qu'elle s'endorme un peu plus tôt, mais c'est même pas de ça, c'est surtout que c'est pas régulier, donc il y a des moments où elle va s'endormir à 20h et il y a des moments où elle va s'endormir à 22h. Donc forcément, les moments où elle s'endort à 22h, c'est moins cool, quoi, pour nous, pour justement profiter de ce moment à deux. Mais c'est pas tous les soirs, c'est pas tous les soirs, et donc en fait, je pense qu'il faut juste apprécier pleinement les moments qu'on arrive à avoir tous les deux, tu vois. Et bien sûr, il y a la notion de fatigue. Donc par rapport à ça, pour ne pas se sentir fatigué dans ces moments qu'on a juste à deux, bah, il faut trouver un moyen pour se reposer. Et ça, quoi qu'il arrive, je veux dire, même si c'est dans un cadre où on n'a pas envie de, forcément de passer des moments à deux, c'est hyper important, l'énergie et la fatigue. Je veux dire, ça touche énormément de choses. Et tu vois, dans la première question où tu me demandais comment on fait dans les situations où on n'est pas aligné, je sais que quand le ton monte, etc., c'est parce que aussi on a accumulé de la fatigue et qui fait qu'on réagit entre guillemets moins bien dans ces moments-là. Alors que si on n'était pas fatigué, ben on n'aurait pas réagi de la sorte. Donc c'est important de trouver encore une fois des astuces et des solutions pour s'opposer. Et là, on retombe sur cette idée d'avoir un rythme alterné où quand tu ressens le besoin de te reposer et surtout que tu écoutes ce besoin-là, bah que tu demandes à l'autre de te laisser un peu de temps pour que tu puisses te reposer et inversement. Voilà, j'espère que ces réponses en absence de recettes miracles t'auront été utiles quand même. Merci, merci beaucoup pour tes deux questions, Mélodie. Je te fais des bisous. Et maintenant, c'est des questions de Isako Book.
Alors ma question pour la meute, pour le podcast, ce serait est-ce que vous avez des rituels pour l'endormissement de Charlie? Et si oui, qu'est-ce que vous faites un petit peu? J'aimerais savoir. Nous, on a mis en place quelques trucs de nos côtés, notamment une petite histoire pour que mon fils revienne au calme. Et puis après, c'est surtout du bercement. Je suis pas sûre que ça se dise, mais bref. Voilà. Donc, je voulais savoir de votre côté ce que vous aviez mis en place.
Alors, les rituels de l'endormissement, c'est assez compliqué parce qu'effectivement, tu vois, comme je disais juste avant, il y a des moments où elle s'endort à 20h et des moments où elle s'endort à 22h. Et en fait, les raisons pour lesquelles il y a ce rythme différent, c'est qu'il y a des moments où elle veut pas rester au lit ni rien, tu vois. Elle se lève, elle va retourner jouer, elle va se balader dans la maison. Et clairement, quand on sent avec Julie qu'elle a encore plein d'énergie et qu'elle a pas ce besoin de dormir tout de suite, on va pas la forcer à rester dans le lit, on va pas la forcer à faire juste du temps calme, entre guillemets, tu vois. On va la laisser faire ce qu'elle a envie de faire, entre guillemets, bien sûr. Là, je sens tout de suite les gens qui vont dire waouh, c'est quoi ce laxisme? Mais en tout cas, on va la laisser dépenser l'énergie qu'elle a besoin de dépenser. Mais sinon, dans les moments où ça se passe de manière fluide, on va dire, ce qu'on a mis en place, c'est le brossage de dents. Alors attends, non, d'abord je la mets en pyjama, ensuite je brosse les dents. C'est devenu un truc de fou, le brossage de dents. Alors autant, j'arrive pas à vraiment lui brosser les dents, si je suis honnête, tu vois, c'est pas un brossage de dentiste. Parce que je l'expliquais dans une IGTV Instagram, il me semble, lorsque je parlais du langage des signes, je crois. C'est hyper dur de brosser les dents à un bébé, hein. On est d'accord, même à 1 an et demi, c'est compliqué, hein. Donc moi, je lui relève les babines, tu vois, j'arrive un peu à lui brosser les dents de devant. Elle aime pas trop ça, tu vois, elle se laisse pas trop faire. Enfin, c'est pas qu'elle aime pas trop ça, mais faut pas que ça dure longtemps et elle veut vite que je la laisse faire, en fait. Elle veut pas que je lui fasse. Donc, j'arrive quand même à lui faire deux, trois coups de brossage sur les dents, mais ensuite elle veut que je lui laisse la brosse à dents. Et là, forcément, moi ce que je fais en fait, c'est qu'à chaque fois je me brosse les dents avec elle, devant elle, et du coup je lui montre moi comment je me brosse les dents. Et on se brosse les dents ensemble. Mais elle se brosse pas les dents de manière super efficace, mais dans tous les cas, elle aime bien ce moment-là, et donc c'est devenu une partie de notre rituel de l'endormissement. Elle se brosse les dents. Et elle sait qu'elle va aller se coucher ensuite, en fait. Ce qui se passe, c'est que le soir, donc, elle mange. Après, on lui laisse le temps de s'amuser, etc. Et quand on voit qu'elle commence un peu à fatiguer, on essaie d'être attentif aux signes, tu vois. Eh bien, on va lui proposer enfin, on va pas lui proposer. On va lui dire, tiens, on va se mettre en pyjama et on va se brosser les dents. Et donc, c'est un rituel qu'elle aime bien, le brossage de dents. Et ensuite, on se met dans le lit. Et là, c'est tété dodo. Tété dodo quand ça se passe de manière fluide. Donc effectivement, mis à part le brossage de dents et voilà, le petit câlin, lui faire un bisou et la mettre au sein, parce qu'effectivement, je suis son porteur attitré. C'est moi qui la porte pour la déposer au sein de sa mère. On n'a pas plus de rituels que ça. J'ai essayé les histoires, mais en fait, elle adore les livres. Elle adore les livres. Et pour le moment, les histoires, c'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus. Elle aime bien toucher le livre, regarder les images, etc. Tourner les pages elle-même. Et du coup, j'ai pas l'impression que l'histoire, ce soit un moment qui l'apaise. Tu vois, c'est un moment de jeu. Ouais, c'est un moment de jeu qui la stimule pas mal. Donc pour elle, effectivement, les histoires, c'est pas encore ça. Je pense qu'à un moment donné, elle sera plus attentive entre guillemets à l'histoire en elle-même, tu vois, et elle aimera écouter. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, mais peut-être que ça arrivera. Et donc là, peut-être que ce sera plus adapté à un rituel d'endormissement pour elle. Mais c'est vrai que pour le moment, les histoires, c'est pas super adapté pour elle, pour l'endormissement. Mais globalement, voilà, c'est ça, c'est le sein, et puis voilà, hein, brossage de dents et le sein. Et un câlin.
Mon autre interrogation est autour des fêtes de fin d'année qui vont arriver, notamment du Père Noël. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à est-ce que vous pensez faire croire à Charlie au Père Noël ou non? Et si oui, pourquoi? C'est peut-être un peu personnel comme question, je sais pas. Je disais, c'est quelque chose que je me pose comme question, moi, personnellement, pour mon fils, auquel je n'ai pas de réponse encore actuellement. Et puis, comme il est encore petit, je pense que j'ai encore le temps de trouver la réponse. Mais voilà, je me demandais ça. Et puis, du coup, si vous ne pensez pas faire croire à Charlie au Père Noël, comment vous pensez... expliquer un peu tout ça, en fait, si vous avez des pistes de réponse ou pas. Voilà. C'était mes petites questions pour le podcast. Voilà. À bientôt. Et j'espère avoir des réponses, peut-être.
Mais oui, tu vas avoir des réponses. C'était trop mignon, les petits bruits de bouche du petit. Donc, alors, c'est une grosse question. C'est une grosse question, notamment pour moi, et c'est un sujet de discussion hyper, hyper prenant. Je crois qu'on n'a pas encore vraiment établi concrètement comment les choses allaient se passer, etc. Mais ça rebondit un peu sur la question de Mélodie. C'est un des sujets sur lequel on n'est pas forcément hyper aligné, Julie et moi. Dans le sens où Julie, elle aime énormément les fêtes de Noël. C'est une période de l'année qu'elle adore. Moi personnellement, c'est pas trop mon cas. D'ailleurs, c'est étonnant parce que dans son histoire à elle, elle a vécu plus de mauvais Noël que moi, tu vois. Et pour autant, elle aime bien Noël. Moi, c'est pas tellement que j'ai vécu des mauvais Noël, même si je pense qu'on a tous un peu nos bagages familiaux avec des repas de famille pas super cool. Mais j'en ai pas vécu des dizaines et des dizaines des repas de famille à chier. Donc c'est pas tellement pour cette raison-là. Mais d'une part, l'idée de mentir à Charlie, ça me gêne énormément. Même si c'est pour mentir sur ce sujet-là. Donc j'ai pas envie de lui mentir pour ça. Après, d'une façon plus personnelle, et qui ne regarde même pas Charlie, mais qui regarde juste mes valeurs à moi, ça me dérange que ce soit une fête religieuse alors que je me suis éloigné de la religion catholique. Alors que j'ai eu un passif baptisé, communion, etc. J'ai grandi dans une famille qui a voulu que je fasse le catéchisme et tout. On a fait quelques messes de Noël et tout ça, tu vois, mais assez rapidement, au début de l'adolescence, je me suis très très vite éloigné de toute la dimension religieuse. Et donc voilà, cet aspect de fête religieuse, ça me dérange. Et au-delà de ça, tout le côté hyper capitaliste me dérange aussi. Donc autant te dire que, hormis le côté se réunir, penser à ses proches, à sa famille, je trouve ça très beau. Mais tout le reste, non. Tout le reste, ça m'hérisse le poil. Et moi-même, en tant qu'enfant, j'ai vécu ça un peu comme un choc quand j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas, notamment, hein, parce que finalement, autour de la question pour l'enfant, c'est surtout ça, hein, c'est la croyance autour du Père Noël. Et donc moi, à 5 ans, j'ai posé la question à ma mère. Sans doute que j'en avais discuté avec d'autres enfants qui m'avaient mis le doute, tu vois, de façon très classique, j'ai envie de dire. Je me souviens plus exactement pourquoi j'ai décidé de poser la question à ma mère à 5 ans, mais je lui ai posé la question et ma mère m'a dit directement, bah non, il n'existe pas. Dans un sens, je la remercie de ne pas avoir voulu nourrir le mensonge, parce que je trouve ça encore plus horrible de vouloir continuer à nourrir le mensonge quand l'enfant te pose la question directement. Mais c'est vrai que ça a été du coup un choc, tu vois. J'ai pas compris, tu vois, pourquoi on m'en fait croire ça, etc. Donc, j'ai pas envie de le reproduire. Et en règle générale, ouais, mentir à son enfant, ça me dérange. Donc, rien que pour ça, c'est non. Et du coup, par rapport vraiment à cette grosse question autour de Noël, dans Barbe Magique, il me semble que c'est l'épisode 3 avec Nao. Justement, on a une grosse conversation sur ça, parce que Nao, elle raconte que elle ne fêtait pas Noël, elle ne fête pas Noël, elle fête Yule, qui sont donc les fêtes païennes, en quelque sorte, avant l'arrivée de la religion chrétienne. Et du coup, j'ai partagé que, personnellement, comme j'ai pas envie de fêter Noël, c'est une piste qui m'intéresse bien, parce que Yule, au final, c'est juste la connexion avec la nature et les saisons, tu vois. On fête le solstice d'hiver. Donc je trouvais ça plutôt chouette de fêter le solstice d'hiver et le changement des saisons plutôt que de fêter le Père Noël et Jésus et compagnie. Donc voilà, moi j'ai vraiment partagé cette idée auprès de Julie et auprès de ma famille de ne plus fêter Noël, et en tout cas pas avec Charlie, en tout cas ne pas compter sur moi pour ça. Mais par contre, Yule, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Donc ce sera peut-être aussi le sujet d'un épisode où on vous dira comment la décision finale qu'on a prise, comment on met ça en place exactement. Il y a toute une discussion en fait par rapport au choix de faire croire au Père Noël ou pas par rapport à la magie. Tu vois, on se dit, oui, ne pas transmettre les légendes de Noël et l'esprit de Noël à ses enfants, c'est leur faire perdre un peu de magie. Et je pense qu'il y a énormément d'autres façons différentes de transmettre la magie. Et sans mentir à ses enfants. Et je pense que, notamment, en fait, par le biais de la nature, et tu vois, les changements des saisons, etc., avec Yule, le solstice d'hiver, et raconter les légendes aussi, tu vois, on peut raconter les légendes autour de tout ça, c'est aussi transmettre une certaine magie. Alors bien sûr que je pourrais lui parler des légendes du Père Noël et tout ça, et pourquoi certaines personnes y croient, etc., mais je pense pas que je lui cacherais qu'à l'origine c'est une fête religieuse, etc., etc., tu vois. je ne veux vraiment pas lui mentir. Et pour tous les autres aspects là, et toute cette notion de transmettre la magie à ses enfants, je pense que je le ferai en lui transmettant toutes les légendes qui existent et qui me passionnent énormément. En fait, depuis que je suis tout petit, tout ce qui est attrait aux différentes mythologies, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc clairement, je sais que l'idée de magie et d'imaginaire, elle peut très très bien se transmettre sans Noël, quoi. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, je pense qu'on en fera un épisode avec Julie un peu plus creusé sur la question et comment concrètement on fera les choses. Pour le moment, je t'ai dit, c'est encore en piste de réflexion, on n'a vraiment rien décidé en particulier. Mais voilà. Du coup, merci beaucoup pour ta question, Isako. Des bisous, à bientôt. Et enfin, Nico, de Chronique de Papa, m'a posé plein de questions. Donc, si je mets autant de temps à y répondre que je n'ai fait pour les 4 premières, l'épisode risque de durer 2 heures. Bon, on va voir si je suis autant inspiré pour chacune de ces questions, mais je me souviens qu'il y en avait pas mal.
Salut Rémi, j'espère que tu vas bien. Alors, mes questions pour le fameux podcast que tu comptes faire, il y en a quelques-unes qui sont au niveau de votre vie pro avec Julie et comment vous organisez tout ça avec un enfant. Donc déjà, la première question, c'est est-ce que vous étiez déjà tous les deux à votre compte avant l'arrivée de Charlie? Je crois avoir entendu dans un des podcasts que, si je me rappelle bien, que peut-être Julie était déjà à son compte, mais peut-être pas toi. Dis-moi si je me trompe, et voilà, est-ce que vous l'étiez déjà avant avant d'avoir Charlie ou pas, et comment vous vous êtes organisé les premiers mois avec l'arrivée justement de votre bébé, parce que comme on dit souvent, les premiers mois sont les plus chaotiques. Bébé a son propre rythme qui est souvent différent de celui des parents. Donc comment ça a été un peu pour vous l'adaptation pro et vie perso avec un petit bout de chou?
Avant l'arrivée de Charlie, Julie était bien évidemment à son compte depuis quelques années déjà. Moi, ça faisait 2 ans. Avant l'arrivée de Charlie, ça faisait déjà 2 ans, je pense, que je l'avais rejoint dans tout l'aspect freelance, finalement. Parce que donc, oui, pour faire un peu de contexte, on a eu plusieurs années où on faisait surtout et principalement des missions de freelance pour aider les entreprises à gérer leurs réseaux sociaux et leur communauté. Et donc je l'ai rejoint pendant 2 ans, mais c'était en grande partie en temps partiel parce qu'on n'avait pas forcément assez de rentrée d'argent pour ne compter que sur l'activité de Julie. Donc je l'ai aidé à temps partiel, et sur l'autre partie du temps je travaillais en tant qu'animateur dans des écoles élémentaires et maternelles. Ensuite il y a eu une année où on a eu beaucoup de clients, et donc j'ai pu rejoindre Julie à temps plein. Et puis après, on a de nouveau perdu des clients, parce qu'en fait, on avait entamé sans être 100%, enfin comment dire, on avait entamé sans être sûr à 100% de le faire, tu vois, mais on va dire que l'univers l'avait entamé pour nous, l'envie de ne plus être freelance et de vraiment monter notre marque. Et donc, petit à petit, nos missions de freelance est alignée avec cette volonté-là malgré nous, et donc nos clients freelance sont partis petit à petit, et là on a de nouveau eu le besoin que je prenne un emploi à temps partiel, et ça s'est fait sur l'année de grossesse de Julie, où j'ai repris un emploi en animateur en maternelle. Et à la fin, donc juste le mois qui a précédé l'accouchement, je crois, vu qu'on a eu l'annonce qu'il y avait risque d'accouchement prématuré, j'ai demandé à prendre tous les congés que j'avais cumulés et plus le congé paternel pour comme ça être sûr que j'allais rester avec Julie jusqu'à l'accouchement, peu importe la date à laquelle ça allait arriver, vu qu'on n'en avait pas la moindre idée à ce moment-là. Et ça me permettait en fait d'aller jusqu'à la clôture de mon contrat, de la date de mon contrat qui était prévue. Donc ça s'est passé comme ça. Et après, à la fin de mon contrat, du coup, je n'ai pas repris d'activité en temps partiel. J'ai rejoint Julie de nouveau à temps plein. Et là, on a vraiment travaillé sur le développement de notre marque. On avait très peu de... On n'a pas retrouvé de nouveaux clients freelance, en fait. On a continué à travailler avec les missions freelance que l'on avait... avant l'accouchement, il me semble. Il y a peut-être juste notre mission pour intention qui s'est intercalée, mais globalement c'était ça. Et ensuite, du coup, tu me demandais comment on s'est organisé pour les premiers mois, effectivement, où c'était chaotique. Julie était en arrêt de travail de toute façon, en congé maternité. Oui, je crois que c'est ça qu'on dit. Et donc c'est moi qui a pris le relais pendant cette période-là. Donc Julie était sans... De toute façon, avec l'allaitement, tu te doutes bien que Julie a passé beaucoup de temps à allaiter, surtout avec tous les pics de croissance qu'il y a dans les premiers mois. En plus, on était en été, donc qui dit été, Charlie avait énormément soif, donc elle passait beaucoup de temps au sein. Et puis, je vous renvoie aux premiers épisodes de La Meute, mais le début de l'allaitement a été très compliqué, ça a été toute une aventure. Donc Julie s'est vraiment consacrée corps et âme à Charlie. Moi, j'ai pu la soutenir autant que je pouvais parce que j'étais présent H24 avec elle. Je n'avais pas à partir ni rien. Mais du coup, je gérais notre boulot tout seul sur les temps que j'avais à dispo, par-ci, par-là. Mais ça s'est bien passé finalement. Ça s'est bien passé. On s'est débrouillé comme on a pu. On devait clôturer une formation à ce moment-là parce qu'on est un peu taré. Donc on terminait la création de contenu d'une formation. Mais c'est là où tu vois quand même la grosse, le gros avantage d'être indépendant et de pouvoir gérer son temps comme tu le souhaites. Je me souviens pas avoir vécu ça trop difficilement. Il y a eu des périodes de fatigue parce qu'il y avait des périodes de rush. Mais finalement, j'ai pas eu l'impression de sacrifier mon temps avec Charlie et Julie, tu vois. Donc là où je pense qu'en emploi salarié, t'as pas le choix. Parfois, tu ne parviens pas à prendre des temps de congé que tu souhaiterais, enfin, ou alors il faut que tu sacrifies ton travail. J'ai bien conscience que c'est pas forcément facile, mais du coup, nous, dans le statut qu'on avait à ce moment-là, je sais pas comment Julie en parlerait, mais j'ai pas eu l'impression de sacrifier quoi que ce soit. J'étais certes fatigué, ça c'est sûr, mais c'est tout. C'est tout.
Autre question, aujourd'hui, maintenant qu'elle est un peu plus âgée, comment est-ce que vous organisez vos journées entre votre business ou vos business et la parentalité? Est-ce que vous avez un petit peu des journées type prévues, du style voilà tel jour, de telle heure à telle heure on fait comme ça et tout ça? Ou est-ce que vous adaptez vraiment vraiment un peu en freestyle suivant les besoins et les demandes de votre fille? Donc voilà. Autre question, Rémi, on te voit souvent sur les stories en portage en sling avec Charlie. Est-ce que vous utilisez d'autres moyens de portage, ou est-ce que vraiment c'est le sling que vous préférez en fait? Et si oui, pourquoi en fait? Quels sont les avantages selon vous sur ce type-là?
Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Bon, on tâtonne encore un peu. On essaie de mettre en place un truc qui a l'air de fonctionner quand on arrive à le mettre en place. Mais il y a des moments où on n'arrive pas à le mettre en place. Bon bref, je vais arrêter de tourner autour du pot et dire ce qu'on fait. Donc il n'y a pas vraiment de journée type, c'est surtout qu'en fait, chaque fin de semaine, on organise notre semaine suivante. Donc on met des blocs de temps en fait, c'est-à-dire que selon les objectifs que l'on doit atteindre, selon les tâches que l'on doit faire, et ben on va dire Julie sa tâche la tâche A elle dure 2 heures, on va la placer le lundi matin, et donc pendant cette tâche A de Julie qui dure 2 heures, ben moi je vais m'occuper de Charlie et Julie ne sera pas embêtée, donc moi je ne vais pas travailler pendant ce bloc de temps qui est dédié à Julie. Et inversement, l'après-midi moi je vais avoir un montage de podcast à faire par exemple, et ben Julie va s'occuper de Charlie à ce moment-là. Après, il y a des moments où on triche un peu. Par exemple, si Charlie est dans une période où elle se lance dans un jeu et elle s'occupe toute seule et elle ne demande pas notre attention et elle est super contente de jouer, eh bien, on va en profiter pour travailler tous les deux en même temps et voilà. Mais globalement, voilà, on fonctionne sous forme de bloc de temps où on essaye de laisser un moment où l'autre n'aura pas à être interrompu. Mais ça, c'est vraiment du tâtonnement, dans le sens où on n'arrive pas encore à le faire toutes les semaines parfaitement. Tu vois, il y a des moments où on est quand même interrompu, parce que Charlie, elle a beau être avec sa mère pendant que moi je fais le montage, ou inversement, peut-être qu'elle veut l'autre, tu vois, au moment où il bosse. En fonction de comment ça se passe, on va pas forcément lui dire « Ah bah non, c'est pas possible », tu vois. La plupart du temps, moi, j'essaie de partir de la maison quand c'est le cas. Du coup, on part en balade et tout. Et comme ça, Julie, elle a son bloc de temps tranquille. Mais il y a des moments où on est quand même là. Et du coup, c'est possible qu'elle demande l'attention du parent qui est en train de travailler. Mais écoute, ça fait 1 an et demi que c'est comme ça, plus ou moins. Je pense que ça va quand même de mieux en mieux. On arrive quand même à s'organiser de mieux en mieux aussi, parce qu'on fait un peu preuve de discipline. Mais écoute, en tout cas, ça a l'air de fonctionner quand on arrive à le mettre en place. Ça a l'air de bien fonctionner comme ça. Donc je pense qu'il faut continuer sur cette lancée de bloc de temps. Et puis voilà. Ensuite, donc ta deuxième question C'était autour des écharpes de portage. Alors je donne la réponse en réfléchissant à ta question. Mais du coup, ouais, je ne porte qu'avec des écharpes. Et non, je n'utilise pas que le sling. Effectivement, on me voit principalement avec le sling en story. C'est devenu un peu ma seconde peau, hein, le sling. Je l'ai tout le temps sur moi. Pourtant, depuis quelques mois, je porte de moins en moins Charlie parce que elle a énormément d'envie d'indépendance et du coup elle demande beaucoup moins à être portée, même si ça arrive de temps en temps quand même. Mais par automatisme, en fait, je le mets et voilà, comme ça au moins je suis tranquille, je suis prêt à porter quoi qu'il arrive. Mais du coup, alors, comment ça a commencé l'expérience portage? J'ai commencé avec une écharpe Radius, je crois que ça s'appelait, je sais plus. C'était une écharpe qui s'achetait en magasin de bébé, là, où t'as tout. T'as des jouets, la literie, t'as les lits, les matelas, les accessoires, les poussettes, la boue. Tu sais, c'est les grands magasins. Je sais même plus lequel c'était, mais c'est les grands magasins où t'as vraiment tout le monde du bébé dans un seul magasin. Et il y avait donc un petit rayon portage. Et donc, j'ai chopé cette écharpe-là. C'était une écharpe un peu élastique. Donc, c'était une écharpe à nouer. Tu dois faire un nœud pour porter ton bébé. Mais c'est une écharpe élastique, donc tu devais la tirer, etc. Pour avoir le bon... comment dire, le bon volume de tissu pour accueillir ton bébé, selon sa taille. Et le problème, étant donné que c'était une écharpe élastique, je me souviens plus de la composition, mais j'imagine que c'était à base de plastique, tu vois, d'élastane, un truc comme ça, mais c'était pas super respirant. Et comme Charlie est arrivé en plein été, je l'ai pas utilisé très longtemps. Je l'ai pas utilisé très longtemps, cette écharpe, parce qu'on crevait vraiment de chaud avec. Et je crois que j'ai dû l'utiliser peut-être un mois. Ensuite, on a acheté un sling en lin, justement pour l'été. Et ça a été une galère à faire la transition entre l'écharpe à nouer et le sling. J'arrivais pas à bien la positionner, ça a été compliqué. Je crois qu'on a réussi à régler le problème. On n'a pas pris le temps de voir quelqu'un, tu vois, une monitrice de portage pour le faire, alors qu'il n'y avait pas de problème de Covid et de confinement à ce moment-là, donc on aurait très bien pu le faire. Mais on a été un peu con-con, donc on ne l'a pas fait. Et à la place, ça a été en échange de photos, il me semble. Et on m'a donné des conseils comme ça en photo. Et à un moment donné, et à force d'essayer, parce qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est qu'une question de pratique aussi, à force de le faire, j'ai réussi. Et là, c'était une révélation. Le sling, c'est tellement bien, parce que c'est rapide à installer. T'as pas besoin de prendre quelques minutes à faire ton nœud. Tu places juste le sling sur toi, et tu le gardes, en fait, parce que même quand l'enfant veut descendre, et ben, t'as quand même le sling qui est là, et dès qu'elle va vouloir remonter, tu vas pouvoir, et tout, et c'était trop bien. Et surtout, le lin, bah, pendant l'été, ça a été chouette, parce qu'on... C'était beaucoup moins chaud à porter qu'une autre matière. Par contre, ça soutient que sur un axe, j'ai envie de dire, vu que tu le mets sur une épaule. Donc, t'as un déséquilibre au niveau du maintien. Et j'ai porté comme ça pendant des mois, et je portais vraiment plusieurs heures par jour, tous les jours. Et ça a duré des mois comme ça, jusqu'à un moment donné où ça me fasse très très mal à l'épaule, où je ne portais pas bizarrement. Je pense que je devais compenser, et du coup l'épaule qui ne portait pas, elle me faisait énormément souffrir, j'avais très très mal. Les trajets en voiture, c'était affreux. Être assis en voiture, ça me faisait hyper mal. Et donc on a été invité à l'ouverture de l'atelier de La Ruche Léora sur Bordeaux. Et là, il y avait une monitrice de portage. Donc, elle m'a corrigé un peu mon positionnement, parce que certes, j'arrivais à bien porter Charlie en écharpe, avec le sling, je galérais plus, mais l'anneau du sling, je le mettais un peu trop bas. Il fallait vraiment que je le repositionne bien sur le haut de l'épaule. Et donc, juste cette correction, ça m'a fait beaucoup de bien au niveau du maintien et de la douleur au dos. Et surtout, j'ai pu tester un sling de La Ruche Léora là-bas, et c'était un truc de malade, parce que je vais pas forcément je vais pas forcément faire une pub La Ruche de Léora, mais si tu veux, en termes de tissu, il y a plusieurs couches, en fait. Il y a plusieurs couches de tissu dans les écharpes de Léora. Du coup, au niveau du maintien, moi, ce que j'ai dit, en fait, quand j'ai essayé la première fois, c'est que j'avais l'impression d'avoir un petit coussin d'air sur l'épaule, tu vois. Et du coup, au niveau confort, c'était un truc de ouf. Donc, j'ai abandonné le sling en lin, et j'ai pris un sling La Ruche Léora, le sling qu'on me voit tout le temps avec en story et que je n'abandonne plus, qui est trop bien. Et du coup, tu vois, en l'espace d'un an, j'ai plus de douleur au dos ou quoi que ce soit. Ensuite, on a investi sur une écharpe Anouée La Ruche Léora pour avoir vraiment le maintien sur les deux épaules, etc. Pour les balades notamment, parce que le sling c'est bien, mais quand tu te balades et que tu marches pendant un moment, le manque de soutien réparti sur le dos, sur les deux épaules, etc., tu sens que c'est pas agréable. Ça fait pas mal, mais c'est pas agréable, quoi. C'est vite chiant. Donc on a investi sur une écharpe à nouer pour avoir vraiment ce maintien pour les promenades, et c'est vraiment cool. Et je regrette un peu qu'on l'ait pas eu plus tôt, parce que du coup, aujourd'hui, Charlie elle veut beaucoup marcher. Donc on s'en sert assez peu, mais quand je m'en sers, j'en suis quand même très content. Donc voilà, globalement, c'est full écharpe, mes moyens de portage, et principalement le sling et l'écharpe à nouer.
Et d'ailleurs, concernant le joli prénom de Charlie, comment est-ce que vous avez choisi ce prénom ? Souvent, j'aime bien parce que souvent il y a une histoire autour du choix du prénom pour les enfants. Donc voilà. Donc comment est-ce que ce prénom est venu à vous ? Comment vous l'avez choisi ? Autre question aussi pour Rémi, justement de papa à papa. Comment est-ce que tu as vécu l'arrivée de Charlie dans ta vie? Je sais pas si vous en avez déjà parlé peut-être dans un autre podcast de La Meute, mais est-ce qu'en fait sur les premiers jours, est-ce que ça t'est arrivé de flipper à un moment donné sur notamment ta capacité à être un bon papa ou sur le grand changement, le grand chamboulement quand même que ça apporte dans ta vie, le fait d'avoir un enfant? Donc voilà, donc ça, je serais très curieux de savoir ça.
Alors pour le prénom, c'est assez rigolo parce que du coup pendant longtemps, Julie pensait qu'elle attendait un garçon. Elle était persuadée que c'était un garçon et du coup, pendant un bon moment, on ne trouvait que des idées de prénoms de garçons. Et on s'était notamment arrêté sur un prénom de garçon qu'on aimait beaucoup. Et au niveau des prénoms de filles, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, c'était très relou. Alors moi qui suis full tatoué Alice au Pays des Merveilles, j'avais forcément proposé Alice. Au final, Alice est tombée en deuxième prénom pour Charlie. Mais du coup pour Charlie, le prénom Charlie, alors on aime bien les noms mixtes, on aime bien les prénoms non genrés. Bon, Alice a absolument rien à voir du coup, mais mais on aime bien les prénoms mixtes. Et Charlie, tu vois, c'était un prénom qu'on ne voulait pas forcément donner à un garçon, on préférait sur une petite fille. Moi, c'est un prénom que j'apprécie depuis assez longtemps. Quand j'étais plus petit, quand j'étais enfant, adolescent, j'avais découvert la Charlie de Stephen King, et c'est un personnage que j'avais bien aimé, et c'est un prénom qui m'avait bien marqué à ce moment-là. Et je trouvais que sur une fille c'était assez cool, parce que c'est vrai que Charlie on l'entend beaucoup sur les garçons, et d'ailleurs parfois les gens sont étonnés d'apprendre que c'est un prénom mixte, mais c'est un prénom qui me revenait depuis assez longtemps, et c'est vrai que quand je l'ai proposé à Julie, c'est un des rares prénoms sur lesquels on était d'accord finalement, donc c'était presque plus par dépit qu'on l'a choisi, parce qu'on avait finalement très peu de choix. Tu vois, il y a des parents qui ont beaucoup, beaucoup de choix, qui aiment beaucoup de prénoms et qui ont du mal à se décider. Nous, c'était un peu l'inverse. Finalement, Charlie, c'était plus ou moins... Je crois que c'était le seul prénom sur lequel on était d'accord et qu'on aimait vraiment tous les deux. Donc voilà, je suis désolé, il n'y a pas forcément une histoire de ouf derrière, mais voilà. Ensuite, donc, ton autre question par rapport à l'arrivée de Charlie, comment je l'ai vécu? Pendant longtemps, je disais que j'étais né prêt à être papa. Parce que, pour la petite histoire, je me suis beaucoup, beaucoup occupé de mon petit frère qui a 5 ans de moins que moi. Et donc, à 5 ans, j'étais déjà un petit père, tu vois. je sais pas, j'ai un instinct hyper maternant depuis tout petit. Il y a une anecdote qui raconte qu'à 5 ans, du coup, mon petit frère pleure. Et je trouve que ma mère met trop de temps à venir le récupérer. Et donc, je vais le chercher et je le prends. Donc, tu imagines un gamin de 5 ans qui porte un bébé, un nouveau-né dans les bras. Et je le ramène à ma mère et je dis, il pleure. Et là, ma mère, elle avait très peur que je le fasse tomber ou quoi, sans faire exprès, tu vois. Et elle a réussi à garder son sang-froid pour ne pas me faire peur, du coup, à moi et que je puisse le lâcher sous la surprise, tu vois, par exemple. Mais voilà, c'est une petite anecdote pour dire à quel point j'étais ready. Et du coup, voilà, j'ai passé mon BAFA. Enfin, j'ai vraiment... ça fait longtemps que je suis très intéressé par le domaine de l'enfance et que, enfin, je lis beaucoup autour de ça. Ça m'intéresse énormément, le développement de l'enfant et tout. Donc, au niveau théorique, j'étais très prêt. Niveau émotionnel aussi, tout ça. Mais forcément, via la pratique, il y a des choses qui sont différentes. Mais déjà, au niveau de la grossesse, ça a été une période difficile pour moi, dans le sens où j'avais du mal à vraiment me réjouir, dans le sens où j'avais énormément peur. En fait, j'ai appris au moment de la grossesse de Julie, j'ai appris le fameux truc de pourquoi on n'annonçait pas la grossesse avant les 3 mois. J'ai appris donc que il y avait un grand pourcentage de risque de fausse couche, notamment à la première grossesse, et que pour cette raison, on attend 3 mois avant de l'annoncer. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent des fausses couches, voilà. Et donc déjà, en attendant ces fameux 3 mois, j'avais très peur. J'avais très peur de la fausse couche, donc j'avais peur de vraiment me réjouir, parce que j'avais peur d'avoir trop de bonheur, tu vois, et de perdre tout ça avec la fausse couche. Donc ça a été difficile. Cette lutte intérieure. Et une fois que tu passes le cap des 3 mois, t'as l'impression que tu vas être tranquille, mais en fait, c'est là où tu te rends compte qu'en devenant parent, la peur prend une dimension toute différente et que tu as énormément peur de plein de choses. Après, est arrivé le risque d'accouchement prématuré, donc voilà, la peur est revenue. Et une fois que Charlie est né, il y a eu l'allaitement qui a été compliqué. On n'a pas réussi à la nourrir pendant un moment parce que Julie, elle souffrait trop, donc elle n'arrivait plus à la mettre au sein, et ça a été une épreuve de ouf. Je me sentais vraiment très mal et tellement impuissant face à ce truc-là. Donc je pense que comment je l'ai vécu avec beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de sentiments d'impuissance. Et en même temps, évidemment, beaucoup d'amour. J'étais rempli d'amour pour ma femme, pour ma fille. Très heureux de l'accueillir, mais t'as l'impression que du coup, ce sentiment d'amour et de bonheur est tellement fort que tu dois le payer au prix de cette peur qui est là, quoi. Et aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup moins ces sentiments de peur qui sont présents, mais il y a quand même des moments où ça arrive. Il y a pas longtemps, je portais Charlie dans mes bras et il y avait le sol qui était mouillé dehors. Et j'ai glissé, je suis tombé vers l'avant. J'ai voulu ne pas l'écraser, et du coup, en me déportant et en essayant de ne pas tomber sur elle, bah en fait, je l'ai lâchée sans faire exprès, et du coup, elle est tombée quand même relativement de haut, et assez violemment, quoi. Et du coup, je m'en suis énormément voulu, et c'est pareil, c'est des moments difficiles, et c'est des moments où la peur, elle revient, et... Donc ouais, je pense que pour résumer, c'est une belle ambivalence d'amour, de bonheur et de peur et d'angoisse.
Salut Rémi, alors comme convenu, là, une question de plus pour le podcast. Pour toi et Julie, comment est-ce que vous réagissez quand vous êtes face à des gens qui ont des comportements qui ne vont pas dans le sens de votre parentalité bienveillante? Alors bien sûr, pas des comportements vraiment malveillants, parce que c'est assez facile à réagir, mais les comportements qui sont même inconscients et qui sont ancrés dans les stéréotypes, comme par exemple quelqu'un qui va voir votre fille et qui, quand elle fait un petit sourire ou quelque chose, et qui va lui dire « Ah, t'es une coquine !» ou parce qu'elle va tourner la tête quand la personne va lui parler ou quoi, va lui dire « Ah, t'es timide !» et qui, en fait, on le sait aujourd'hui, ont un impact sur le développement de la personnalité de l'enfant et s'inscrivent quand même dans son inconscient.
Alors... ça, c'est tout un c'est tout un délire. Je sais plus si on en a reparlé sur la meute, mais en tout cas, j'en parle énormément sur Instagram. Je crois que c'est un de mes sujets de prédilection. D'ailleurs, tout a commencé comme ça, globalement, sur Instagram. J'ai partagé énormément de réactions par rapport à ce qu'on a pu nous dire ou ce qu'on a pu dire à Charlie. et je continue de temps en temps à le faire parce que ça m'inspire énormément et aussi parce que ça m'interroge et parce que je ne sais pas toujours comment réagir et parce que ça m'énerve et parce que tu vois, enfin, c'est vraiment tout un truc. Donc, c'est pareil, tu vois, comme je l'ai déjà dit dans cet épisode, j'ai pas la recette miracle et j'ai pas forcément la solution magique à ça, mais la plupart du temps, j'essaie plus de me tourner vers Charlie et de la préserver, elle, tu vois, en contrebalançant ce qu'on a pu lui dire. Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure par rapport à l'idée de faut pas pleurer, et je vais lui dire non, non, t'as le droit, tu peux pleurer. L'histoire de la timidité, etc. Ça n'est pas encore arrivé parce que parce qu'elle n'a pas du tout un comportement timide. Par contre, c'est vrai que coquine, par exemple, c'est déjà arrivé. C'est difficile. Il y a des moments, franchement, je pense qu'aussi ça dépend de notre niveau de fatigue. Il y a des moments où on n'a pas l'énergie de réagir, malheureusement. Et donc, on ne réagit pas. Il y a d'autres moments où on va réagir et on va bien faire comprendre que non. Ça dépend aussi de nos proches et des personnes avec qui on se permet plus de leur dire « bah non, en fait, ne dis pas ça ». Et d'autres personnes où on va plus juste se tourner vers Charlie parce qu'on sait aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas ouvertes, tu vois, et que ça peut partir juste en débat un peu virulent qui ne sert à rien. Ça, c'est un gros truc que j'ai appris ces derniers mois et cette dernière année. C'est les personnes où vraiment tu ressens qu'elles sont fermées. Ça sert à rien de partir dans le débat, ça sert à rien de partir dans la justification, dans l'explication. Donc maintenant, ce que je fais personnellement, c'est que si on me pose une question, je vais répondre et je vais expliquer mon choix, etc. Mais s'il n'y a pas de question, je pars pas dans cet échange parce que je sais que ça ne sert à rien et que ça m'épuise plus qu'autre chose. Mais sinon, comment protéger Charlie de ça? Comme je t'ai dit, je pense qu'il faut... Il faut se tourner vers elle et lui dire nous ce qu'on pense, parce que je pense que c'est ce qui lui importera le plus, c'est de voir qu'on la protège, ça va lui faire du bien. Donc si on dit « Ah, t'es timide », tu vas dire « Mais non, t'es pas timide, c'est juste que tu prends du temps à apprendre à connaître la personne, tu vois. » Donc tu essaies de contrebalancer positivement la critique qui a été faite ou le jugement qui a été fait de manière inutile. Après, si la personne en face va te poser la question bah, « Pourquoi tu penses ça ?» Tu peux effectivement partir en discussion avec. Mais sinon, s'il n'y a pas de questions, franchement, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Et je sais pas si toi, tu arrives à pas intérioriser les trucs comme ça, mais moi, je sais que ça m'épuisait beaucoup parce que c'était des débats interminables parce que la personne est tellement fermée qu'elle reste bloquée sur son truc et tu peux discuter. Ça ne sert absolument à rien. Elle continue à rester bloquée. Et à la fin, en fait, je sortais du truc, j'étais hyper fatigué de toute l'énergie que j'ai dépensée dans ces discussions inutiles. Et en plus, j'étais énervé parce qu'elle m'avait fait refiler plein d'énergie négative, la personne en face, quoi. Et donc, j'étais énervé sur les nerfs et fatigué. Donc, à un moment donné, à force de le vivre, je me suis dit, bon, stop, les débats stériles comme ça, c'est fini. Si on me pose pas de questions, je ne parle plus. Donc je me tourne vers Charlie, je la protège du mieux que je peux, mais je vais pas partir dans des débats avec des personnes qui n'ont même pas de curiosité ou d'ouverture d'esprit.
Ou notamment quand l'enfant va pleurer ou va exprimer son mécontentement par les pleurs, surtout quand il ne sait pas encore parler, comme par exemple la nôtre, et l'exprime vraiment très très fort parce qu'elle n'est vraiment pas contente de ce qui se passe. Je pense par exemple, là tu vois, on a eu le rendez-vous du troisième mois chez le médecin, et la personne en face qui en fait va lui dire « Oh, t'es en train de faire une grosse colère, oh là là, mais t'inquiète pas, mais tout va bien, oh là là, mais c'est pas la peine que tu te mettes dans des états comme ça, tu sais, oh là là, mais la grosse colère, c'est pas beau à voir comme ça et tout ça. Et t'es pas très belle quand tu souris, quand tu pleures et tout. Donc, comment est-ce que vous gérez ça? Alors, comment vous gérez avec des professionnels de santé, si ça vous est déjà arrivé, et comment vous gérez aussi avec la famille?
Pour les médecins, les professionnels, entre guillemets, ça me paraît un niveau encore un peu plus complexe parce qu'il y a la notion de figure d'autorité qui rentre en jeu et donc on n'a pas toujours l'aplomb de réagir par rapport à cette figure d'autorité. Je crois que c'est pas Patriarca qui avait partagé une anecdote avec son pédiatre, je crois, et qui réagissait. Je crois que la pédiatre lui avait parlé de l'allaitement comme quoi il fallait peut-être arrêter, arrêter de prendre le sein. Le pédiatre avait dit ça à sa fille. Et du coup, Papa Patriarca avait réagi en lui disant « Ah bon, mais vous dites ça sous quelle, avec quelle étude vous prenez appui pour dire ça, quoi ?» Et donc, quand t'as la plomb, je pense que c'est bien, tu vois, de remettre en question, de dire « Ah bon, mais vous vous appuyez sur quelle source pour dire des trucs pareils ?» Parce que nous, en l'occurrence, souvent, on a les sources, tu vois, on a les sources de l'OMS, etc., qui peuvent nous appuyer là-dessus. Nous, on a tendance à se protéger. Donc, alors, je disais au début de l'épisode que mentir, c'est pas mon truc, mais par contre, quand mentir pour nous défendre, pour nous protéger, ou alors l'omission, tu vois, l'omission, c'est-à-dire qu'on va pas forcément répondre, on va rien dire. Donc toute la discussion du végétarisme, par exemple, tu vois, le fait qu'on ne mange pas de viande et qu'on n'a pas forcément envie de donner de la viande à Charlie, du moins tant qu'elle n'en demande pas. Si un jour elle veut goûter de la viande, et bien on lui en fera goûter. Mais tant qu'elle n'en demande pas, on n'a pas envie de lui en donner. Donc je sais qu'auprès de certains médecins, c'est compliqué. J'ai pas envie de rentrer dans des débats. Donc quand elle nous demande, elle mange de tout. On fait oui, elle mange de tout, tu vois. Et puis on part pas dans les trucs. Donc en fait, on évite les conflits. Les conflits auprès des médecins comme ça, parce qu'on sait que ça sert à rien, encore une fois. Et sinon, quand ils réagissent comme ça au niveau des pleurs, je pense que c'est pareil, tu vois, te tourner auprès de ta fille et lui parler, lui dire que toi, tu es OK avec le fait qu'elle pleure et qu'elle a le droit de pleurer et tout. Et après, tu verras bien la réaction du médecin, tu vois. Peut-être qu'il réagira par rapport au fait que tu le reprennes et que tu parles auprès de ta fille en lui disant « Mais si, t'as le droit de pleurer. Hein. » Ou peut-être qu'il réagira pas. Mais encore une fois, ouais, ce genre de personne, ça sert à rien de partir dans le débat et lui dire « Non, mais en fait, là, ce que vous dites, ça peut avoir un impact. Les enfants ont besoin de pleurer, surtout à un certain âge, c'est leur seul moyen d'expression. Ou alors, en tout cas, leur moyen principal. Donc, voilà, enfin, parfois, ça sert vraiment à rien. Et on le sait pas forcément à l'avance. Donc, à moins ce qui te pose des questions, encore une fois... ne rentre pas forcément en débat avec, mais ouais, tourne-toi vers ta fille, rassure-la et dis-lui que si, elle a le droit et tout. Mais ouais, c'est un peu le seul conseil que je pourrais te partager par rapport à ça.
Voilà, donc finalement, je me rends compte que ça fait 3 questions. Mais ouais, c'est un sujet auquel on n'avait pas pensé avec Claire et là, dont on est un petit peu, de plus en plus, on va dire, confronté, auquel on est de plus en plus confronté. Donc, on voulait avoir votre éclairage sur la question et comment est-ce que ça se passe pour vous. Voilà, en tout cas, ben, merci beaucoup pour cette proposition de podcast que je trouve vraiment super intéressante, encore une fois. Et puis, ben, je te souhaite une belle journée et à Julie et à Charlie aussi. Ciao.
Merci beaucoup pour tes questions, Nico. Des bisous à vous trois aussi. Et à bientôt. J'espère que ce format d'épisode vous aura plu. Dites-le-moi, partagez-le-moi. Dites-le-moi sur Instagram, par exemple, ou où vous voulez trouver le moyen de me communiquer si c'est le format d'épisode vous a plu. Comme ça, si c'est le cas, ben, je pourrais réitérer l'expérience. Peut-être pas tout de suite, évidemment. Hein. On va peut-être pas faire que des épisodes questions-réponses, mais de temps en temps, je trouve que c'est plutôt cool de vous faire intervenir aussi, de savoir vos questionnements. Et je pense aussi que ça permet de rassurer d'autres parents qui peuvent aussi avoir les mêmes questions et qui peuvent avoir l'impression qu'ils sont les seuls. Alors ces questions-là, au tout début, Mélodie nous partageait ce merveilleux concept de la question bête, mais non, il n'y a pas de question bête. Donc je pense que ça peut faire beaucoup de bien de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à se poser ces questions-là. Et non loin de moi l'idée de vous partager les réponses universelles, ce n'est absolument pas ça. Mais en tout cas, je vous partage mon expérience. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais des bisous à toutes et tous. Et je vous dis... à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao !